Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Almeida. Aujourd'hui, notre voyage historique nous emmène à Téhéran et à Washington.
Au cœur de l'histoire.
Depuis minuit ce matin, l'Iran est de nouveau sous le coup des sanctions américaines qui étaient en place avant 2015, c'est-à-dire avant l'accord sur le nucléaire, des sanctions très dures et qui frappent aussi directement l'Europe.
Une chose est sûre, on ne pourra pas dire que Donald Trump ne tient pas ses promesses. En cavalier seul, il poursuit sa route. Dès mai 2018, il s'était retiré des accords sur le nucléaire iranien, issu de 2 ans de négociations et conclus par son prédécesseur, Barack Obama. Puis, au début du mois de novembre, il a annoncé le retour des sanctions contre l'Iran. Avec Donald Trump, l'Iran est redevenu un état diabolique, l'adversaire par excellence. Et si l'Iran est depuis si longtemps détesté par les républicains et les patriotes américains, c'est en particulier à cause d'une humiliation et d'une date. Le 4 novembre 1979. Ce jour-là, plusieurs centaines d'étudiants iraniens envahissent l'ambassade américaine de Téhéran et prennent en otage une cinquantaine de diplomates. La crise durera 444 jours. Comment expliquer cette crise? Que s'est-il joué en coulisses entre Carter, le président américain, et l'ayatollah Khomeini, le guide de la révolution iranienne? Revenir sur cette histoire nous permet de mieux comprendre la vision des deux peuples dans les relations internationales, hier comme aujourd'hui. Téhéran, dimanche 4 novembre 1979. Ce matin-là, le temps est maussade sur la capitale iranienne. Une capitale et un pays, l'Iran, plongé depuis bientôt 2 ans dans une révolution sans précédent. Vers 10h, ils sont environ 400 jeunes iraniens et iraniennes à se réunir à quelques encablures de l'ambassade américaine. À 10h30, ce 4 novembre 1979, le groupe commence à marcher. Des jeunes filles en tête de cortège sur l'avenue Taleghani où se trouve l'ambassade américaine. Les manifestants arrivent à l'entrée du bâtiment officiel. Brusquement, ils tentent de passer au-dessus des grilles. À l'intérieur, depuis les fenêtres, les fonctionnaires américains assistent à l'incroyable tentative. Ordre est donné à la dizaine de Marines qui protègent le bâtiment de les retenir et d'éviter à tout prix d'utiliser la force. Oui, il faut absolument éviter qu'il y ait des blessés ou des victimes. Par contre, il faut les tenir à distance le plus longtemps possible, car à l'intérieur, dans les bureaux, on s'active. Les diplomates sortent les broyeuses pour détruire les documents sensibles. Après 2 heures d'un véritable siège, les étudiants forcent le passage, envahissent tout le bâtiment et prennent 52 personnes en otage. 3 autres seront capturées au ministère des Affaires étrangères. Quelques-uns ont pu fuir. L'événement fait la une des journaux du monde entier et évidemment est rapporté sur Europe 1.
Nous garderons les Américains tant que les Américains garderont le chat. Le porte-parole des étudiants islamiques a ainsi résumé la situation qui ce soir prévaut à l'ambassade américaine. Le bureau de l'imam Khomeini a pris contact avec les manifestants pour dire que le guide soutient l'action. Les étudiants semblent être donc ce soir installés pour longtemps. Ils ont fait venir du ravitaillement, ont ouvert les portes aux journalistes, bref, se sont organisés pour tenir bon. On ne peut que rappeler les paroles ces jours derniers du guide de la révolution qui a une fois encore violemment critiqué les autorités. « N'attendez rien, a-t-il dit, de ces cerveaux pourris. Le pays est à vous, habitants des bidonvilles. Prenez-le !»
Cette situation exceptionnelle est le fruit de 2 années folles en Iran. Car depuis janvier 1978, le pays est en pleine révolution. L'empire du roi des rois, le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, au pouvoir depuis 25 ans, s'est effondré. Ce dernier avait voulu moderniser le pays et ses mœurs, entre l'urbanisation, l'éducation et l'industrie. Son occidentalisation bute sur l'inflation et l'opposition des religieux. La répression par la police politique, la SAVAK, a déclenché un soulèvement populaire. Cette révolution va des libéraux aux marxistes, mais est vite encadrée par le clergé chiite et son leader en exil, en France, l'ayatollah Khomeini. Le 16 janvier 1979, le Shah d'Iran doit s'enfuir vers l'Égypte. 2 semaines à peine plus tard, le 1er février, Khomeini est accueilli par une foule immense dans les rues de Téhéran. La révolution iranienne entre alors dans une période d'affrontement pour le pouvoir entre les différents camps, avec en tête d'un côté les libéraux, laïcs, du président du conseil, Mehdi Bazargan, et de l'autre le parti républicain islamique de Khomeini. Ce bouleversement et les luttes internes en Iran sont évidemment suivis de près par les États-Unis qui ont fait de ce pays frontalier du RSS leur allié stratégique au Moyen-Orient. Ce sont eux qui, en 1953, ont favorisé le coup d'État du Shah contre son premier ministre Mossadegh, eux, qui malgré ses volontés d'indépendance du Shah, avaient continué à le soutenir. Or, face à un soulèvement du peuple iranien, les États-Unis ont même cru que les religieux pourraient les aider. C'était ignorer à quel point leur influence était jugée négative. Un exemple, eh bien ici, en Iran, les États-Unis sont simplement appelés le grand Satan et leur ambassade le nid d'espions, c'est dire. Deux fois déjà, avant ce 4 novembre, l'ambassade américaine a été prise pour cible. L'ayatollah Khomeini s'est même fait une marotte d'utiliser l'anti-américanisme dans chacun de ses discours. Le 2 novembre encore, il a déclaré que les États-Unis étaient un ennemi de l'islam. On en est donc là, ce 4 novembre 1979, il ne manquait qu'une étincelle. Cette étincelle, on l'entend dans les slogans des manifestants au milieu des drapeaux américains brûlés. Les preneurs d'otages de l'ambassade réclament l'extradition du Shah vers l'Iran pour le juger. Car Jimmy Carter, le président démocrate des États-Unis, a donné son accord pour que Mohamed Reza, qui souffre d'un cancer, soit soigné à New York. Petite consolation pour ce souverain abandonné par ses anciens alliés et condamné à une errance internationale. Carter, encore auréolé par la réussite des accords de Camp David entre Israël et Égypte, est contraint pour des raisons humanitaires et de droit international d'accepter sa venue. Il savait pourtant très bien que l'accueil du Shah sur le sol américain provoquerait la colère du peuple iranien. Et voilà, cela ne manque pas. À peine quelques jours après cette annonce, l'ambassade américaine est attaquée. La question que tout le monde se pose d'emblée est de savoir si Khomeini est à l'initiative de cette prise d'otage. Car parmi les étudiants, on trouve plusieurs pasdaran, les gardiens de la révolution islamique soutien de l'ayatollah Khomeini. Spontanée ou organisée par le guide de la révolution, cette opération arrive surtout à point nommé pour Khomeini. Depuis son retour triomphal à Téhéran, il ne parvient pas à s'imposer complètement à la tête du pouvoir. Il voit là l'occasion de reprendre la main. Critiqué depuis plusieurs mois justement pour ses tentatives de rapprochement avec les États-Unis, le président du Conseil, Bazargan, est au pied du mur. Il dépose sa démission 48 heures après le début de la prise d'otage. L'ayatollah l'accepte. Mieux, l'événement lui donne l'occasion de remobiliser la base et le peuple iranien autour de l'ennemi américain. Pour Khomeini, dans cette crise se dessine l'occasion d'une deuxième révolution. À l'international, l'épisode fait caisse de résonance, comme si le géant américain était prisonnier du nain iranien. Comme une provocation, après quelques jours, certains otages sont libérés. Ils représentent la lutte anti-impérialiste, selon les gardiens de la révolution, ce sont des femmes et des noirs américains. Face à cette situation, dans un premier temps, Jimmy Carter et son gouvernement négocient avec Bani Sadr, le nouveau président du Conseil iranien, pour libérer les otages au plus vite. Deux émissaires sont envoyés sur place pour tenter de régler la situation, mais rien ne change. Le temps passe, la crise s'enlise. Après 25 jours de détention, Carter fait le point. Le correspondant d'Europe 1 à Washington, Édouard Deblay, raconte.
Malgré la fermeté du ton et l'aspect solennel de l'événement, les Américains en semble-t-il été un peu déçus par la conférence de presse du président Carter hier soir. Pour sa première apparition à la télévision depuis le début de la prise d'otage de Téhéran, il y a tout juste 25 jours, le chef de la Maison-Blanche est en effet apparu plus moralisateur que menaçant. Après avoir qualifié la prise d'otage de Téhéran d'événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité, esquivant habilement les questions des journalistes sur la nature des représailles que les États-Unis pourraient utiliser, le président Carter n'a pas voulu fixer de limite de temps pour la solution de la crise. Traduit en clair, la situation des otages de Téhéran, déjà considérée comme insupportable, pourrait encore éventuellement s'aggraver.
Étrange partie de poker qui se joue entre deux États. Côté iranien, Khomeini accentue les pressions. Il se rend à l'ambassade pour apporter son soutien aux étudiants et menace de juger les 52 otages pour espionnage. En décembre 1979, la nouvelle constitution iranienne est votée. Elle abolit définitivement la monarchie pour mettre en place une république islamique au cœur de laquelle Khomeini, le guide suprême de la révolution, contrôle les pouvoirs du président et de son gouvernement. Carter réplique par le gel des avoirs iraniens en Amérique, un embargo sur le pétrole et l'expulsion des États-Unis de plusieurs Iraniens. Le régime des mollahs ne plie pas. Les semaines passent, Noël arrive. Aux États-Unis, le sort des 52 compatriotes bouleverse la population. Partout, à travers le pays, on leur rend hommage au moment des fêtes. Or Carter le sait, 1980 est une année électorale et les prémices de la campagne le montrent, ce sera le sujet principal. Son adversaire républicain, Ronald Reagan, l'annonce. Il promet la libération des otages s'il est élu. Le blocage de la situation extérieure, la pression intérieure, Carter n'a plus le choix et opte pour une option militaire. La crise des otages américains entre dans une nouvelle phase. D'abord une question. Comment s'y prendre pour libérer et exfiltrer des prisonniers au cœur d'une ville de 4 millions d'habitants située à plusieurs milliers de kilomètres de la côte la plus proche? Réponse, mission quasi impossible. Les autorités américaines cherchent depuis plusieurs mois une solution. Elles finissent par arrêter un plan. Nom de l'opération, Eagle Claw, serre d'aigle. En voici les grandes lignes. Première nuit, 6 avions de transport partent d'une île située près d'Oman. Ils se posent en plein désert à 300 km de Téhéran avec une centaine d'hommes de la force spéciale Delta. Là, 8 hélicoptères décollent d'un porte-avions américain, les rejoignent et se ravitaillent dans le désert. Ces mêmes hélicoptères ensuite doivent rapprocher les soldats à 80 km de la capitale iranienne. Élément essentiel pour la réussite de la mission, il faut au minimum que 6 hélicoptères soient opérationnels à ce moment précis. Deuxième nuit. Des agents secrets sur place louent des camions civils. Ils vont chercher les soldats et les font entrer dans la capitale. Début de l'intervention. Explosion de l'un des murs de l'enceinte de l'ambassade. Libération des otages, puis direction d'un terrain de football situé à proximité où les attendront les hélicoptères. Dans le même temps, une autre équipe doit s'occuper des 3 otages retenus au ministère des Affaires étrangères. Les hélicoptères ensuite emmènent tout le monde jusqu'à une base aérienne dont une 3e équipe de soldats doit s'être emparée. De là, enfin, des avions partis d'Arabie Saoudite embarqueront tout le monde en direction de l'Égypte. Le 6 avril 1980, Jimmy Carter prend connaissance de l'opération Eagle Claw. Lui et ses conseillers sont sceptiques. Le risque d'échec d'une ou plusieurs de ses parties est très grand. Seulement 6 mois après le début de la crise, il n'a guère le choix. Sa cote de popularité s'effondre. Le 7 avril, Carter passe à l'offensive. Il annonce la rupture de toutes les relations diplomatiques avec l'Iran et la mise en place de sanctions économiques. Mais surtout, secrètement, il donne son accord pour l'opération Eagle Claw. 24 avril 1980, île de Massira, près d'Oman. 6 avions décollent avec à leur bord une centaine de soldats de la force Delta américaine. Eagle Claw vient de commencer. Les Rangers américains arrivent au point de chute dans le désert. Ils mettent en place un barrage sur la route voisine. Un bus avec plusieurs civils iraniens passe par là, il est arrêté. Mais juste derrière, un camion-citerne suit. Effrayé par ce qu'il voit, le chauffeur accélère. Les Rangers ouvrent le feu et le camion s'embrase, dégageant une fumée visible à des kilomètres à la ronde. Pendant ce temps, comme prévu, 8 hélicoptères décollent du porte-avions en direction du désert. Et là, c'est l'hécatombe. Le premier appareil, privé de système de navigation, doit faire demi-tour. Quelques minutes plus tard, un autre est victime d'une panne mécanique qui le contraint à se poser en plein désert. Il ne reste déjà plus que 6 hélicoptères. Ces derniers, pris dans une tempête de sable, arrivent au point de rendez-vous avec 1h30 de retard. Problème. À peine ont-ils atterri qu'on annonce au commandant en chef des opérations que l'un des 6 appareils est inutilisable. Il n'en reste donc plus que 5 en état de marche. Le commandant prévient sa hiérarchie et demande l'annulation de l'opération. Réponse négative. Continuez avec les 5 autres. Refus du commandant. Mais ce n'est pas tout. Un des hélicoptères se met en position près d'un avion pour se ravitailler et pouvoir repartir. Le pilote fait une fausse manœuvre et percute son avion d'alimentation qui prend feu. 8 soldats meurent et 4 autres sont grièvement brûlés. Face à la catastrophe, ordre est donné d'évacuer par avion en laissant sur place les appareils détruits et les derniers hélicoptères. Évidemment, ce drame fait le tour du monde dès le lendemain de l'opération manquée et l'Iran forcément jubile.
Banisadr a en effet confirmé que tous les otages ont quitté l'ambassade américaine de Téhéran pour être disséminés dans différentes villes d'Iran. Il s'agit, a dit le président de la République dans sa longue conférence de presse, de prévenir une nouvelle tentative américaine pour leur libération. Cela dit, M. Banisadr a créé une certaine surprise en annonçant que l'Iran restituerait sans aucune condition aux États-Unis les corps que le commando a abandonnés sur place dans sa retraite précipitée.
Il est évident qu'en se montrant aussi bon prince après avoir été agressé, l'Iran, qui fait désormais figure de victime, entend pousser à fond son avantage. C'est d'autant plus embarrassant pour Carter qu'il avait annoncé que le commando s'était retiré en emmenant tous ses morts. Rendre les cadavres, c'est donc montrer à la nation américaine que Carter a menti. Décidément, Téhéran fera boire au président américain le calice jusqu'à la lie.
C'est ce qu'on appelle un fiasco. L'échec, comme l'humiliation, est complet. Les Iraniens ne se privent pas de filmer les débris dans le désert pour saluer cette victoire sur l'ennemi pour laquelle ils n'ont même pas eu à intervenir. Les commentateurs du monde entier se moquent de cette manifestation supplémentaire de l'impérialisme américain et de son déclin. 5 ans après la fin de la guerre du Vietnam, alors même que le rival soviétique a envahi l'Afghanistan, les Américains perdent pied. La carte du monde bouge, ils ne suivent plus. L'échec d'Eagle Claw a évidemment plusieurs conséquences, toutes désavantageuses pour les Américains. D'abord, pour les otages, la liberté s'éloigne encore un peu plus. Ensuite, en Iran, elle renforce le camp de Khomeini et légitime l'action des étudiants à l'ambassade. Il n'y a qu'à voir les résultats des élections législatives iraniennes, qui tombent le 9 mai 1980, quelques semaines seulement après l'opération manquée. Le parti de la République islamique l'emporte largement face au camp de Bani Sadr. Cette fois-ci, la mainmise de Khomeini sur le pouvoir en Iran est complète et définitive. En interne, l'utilisation politique de la crise des otages a parfaitement fonctionné. Le 27 juillet 1980, la mort du Shah d'Iran enlève à cette prise de l'ambassade sa première raison d'être. Quelque part, les otages américains pour Khomeini n'ont plus vraiment d'intérêt. Surtout, l'embargo des États-Unis pèse sur le pays de plus en plus. L'économie iranienne est au bord de la déroute. Khomeini est certes en position de force, mais il doit aussi faire vite. En septembre, il énonce 4 conditions à la libération des otages. Le retour de la fortune du Shah, le dégel des avoirs iraniens aux États-Unis, l'annulation des demandes américaines de dommages à l'Iran et l'engagement de non-ingérence américaine dans leur pays. Côté américain, en pleine campagne présidentielle, Carter tente d'accélérer l'issue de la crise. Pour lui, c'est simple, c'est quitte ou double, tant cette question des otages cristallise les tensions et engage ou non sa réélection. Finalement, ce sera quitte. Le 4 novembre 1980, un an, jour pour jour après l'événement, comme un symbole, le candidat républicain Ronald Reagan remporte l'élection présidentielle. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, un président sortant ne parvient pas à être réélu, signe du caractère exceptionnel qu'a tenu la crise des otages en Iran. De son côté, Reagan et ses équipes ont commencé plusieurs mois avant l'élection, via leurs propres canaux, à discuter avec les autorités iraniennes. Il s'agit d'envisager les conditions d'une libération en cas d'élection du candidat républicain, mais en réalité, ont-ils retardé l'issue de la crise ? Rien ne l'indique. Mais le 20 novembre, les 4 conditions de Khomeini sont acceptées par Reagan. Enfin, le 20 janvier 1981, jour de l'investiture du nouveau président américain, une demi-heure seulement après sa prestation de serment, comme une récompense ou un ultime pied de nez historique, l'Iran annonce la libération des otages.
Les grands titres des journaux de ce matin reflètent bien la folle journée qu'ont connue hier les Américains. Les otages sur le chemin de la maison, les otages en Allemagne fédérale se partagent la une avec Ronald Reagan prêtant serment devant le Capitole. Pour la très grande majorité des Américains, c'est réellement une page nouvelle de l'histoire de leur pays qui commence. Après le traumatisme et l'humiliation, c'est la joie et le soulagement. Toutes les grandes chaînes de télévision ont diffusé hier soir le film de l'arrivée des otages à Alger, puis au milieu de la nuit, les images de leur arrivée en Allemagne fédérale. Depuis hier, de gigantesques rubans jaunes, symbole de la liberté retrouvée, pour les otages, ont été accrochés à des arbres à proximité des maisons des familles des Américains libérés. Cette fois, la page est définitivement tournée. Washington, Jean-Marie Lefebvre, Europe 1.
Une page tournée, aux USA c'est la fête, mais en réalité l'effet de cette nouvelle est immense. L'Iran devient le seul pays musulman à avoir tenu tête à tout l'Occident et à avoir fait plier les États-Unis. Cela change tout dans l'équilibre politique du Moyen-Orient. Désormais, des Arabes se tournent vers ce pays, pourtant perse, en espérant y trouver le moyen de vaincre les dictatures, de briser l'impérialisme occidental. De fait, la crise des otages a changé le cours de l'histoire. En Iran, la crise a permis à Khomeini d'achever le processus révolutionnaire et de sceller son nouveau régime. Aux États-Unis, cet événement a provoqué la défaite de Carter et a profondément marqué l'opinion, comme l'imaginaire du peuple américain. Pendant près de 30 ans, les relations entre les deux États seront rompues. Il faut attendre l'élection de Barack Obama en 2008 et la conclusion des accords de Vienne en 2015 pour que l'étau autour de l'Iran se défasse, pour peu de temps comme le montrent les décisions récentes du nouveau président Donald Trump. La mémoire lointaine du 4 novembre 1979 explique la méfiance des dirigeants américains pour l'Iran. C'est un fait générationnel, il n'y a qu'à voir le parcours des hauts responsables de la défense pour mesurer que tous ont fait leur classe alors que se jouait cette crise. Ils sont encore marqués par ce drame au cœur de l'histoire. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Ce podcast est une création Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda. Il a été préparé par Simon Maisonneuve, réalisé par Christophe Davio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.